لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc nous on continue dans Riyad al-Salihin et on commence par donc les ayats que l'imam al-Nawawi rahimahullah il a cité dans Bab al-Tawbah. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يعني في هذه الآية يأمر الله جميع المؤمنين أن يتوبوا إلى الله يعني أن يرجعوا من ذنوبهم ويندموا على ذلك لعلكم تفلحون يعني علق الفوز بالتوبة يعني من وسائل الفوز والفلاح التوبة والفلاح معناه يعني معناه عام جدا يعني أن تحصل على مطلوبك ولا يصيبك مرهوبك هذا معنى الفلاح يعني الذي تريده وترجوه تناله والذي تخافه لا يصيبك هذا هو الفلاح الأشياء التي تريدها تحصل عليها الأشياء التي تخاف منها لا تصيبك هذا هو الفلاح والله تعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون مما يدل على أن من أسباب الفلاح التوبة النصوح وكذلك نستنبط من هذه الآية وجوب التوبة لأن الله تعالى قال وتوبوا إلى الله هذا أمر لجميع المؤمنين وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه كذلك هذا أمر بالاستغفار وبالتوبة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة نصوحة يعني توبة مخلصة لله تعالى توبة تتوفر فيها الشروط التي ذكرناها في الدرس الماضي يعني أن تندم على الفعل مثلا إذا شربت الخمر أو ما أدري يعني عصيت الوالدين أو غير ذلك من المعاصي تندم على ذلك ثم تعزم على أن لا تعود إلى هذه المعصية وكذلك تقلع عن هذه المعصية لا تستمر فيها هذه الشروط وكذلك هناك شروط أخرى كالإخلاص طبعا أن لا تترك الذنب إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل لا ابتغاء مرضات الناس وهذا الشرط في الحقيقة ينبغي أن ننبه عليه يعني كثيرا ما تقرؤون أن من شروط التوبة الندم والإقلاع والعزم أن لا يعود لكن ما يذكرون الإخلاص الشيخ العثيمين رحمه الله ذكرها في شرحه على رياض الصالحين هذا مهم لأنه يعني قد يحصل أن بعض الناس يتركون بعض المعاصي ربما لأنهم يستحيون من الناس يتوبون لكن لا لله وإنما للناس ربما يخافون من إخوانهم أو من الوالدين أو غير ذلك وهذا ما يصلح يعني الإنسان ينتبه لما في قلبه ينتبه وأن يكون نيته دائما خالصة لله عز وجل في كل عباداته والتوبة وأن تترك ذنبا من الذنوب من العبادات donc là on passe au verset dans la, le chapitre de Tawba du repentir donc Al-Nawawi rahimahullah il a cité trois versets le premier verset dans Surat An-Nur et repentez-vous tous à Allah ô les croyants, afin que vous réussissiez. Donc ça, on retire de ce verset un ordre. Là, c'est un ordre. Ça prouve que Tawba, elle est obligatoire. Le repentir, il est obligatoire. Et aussi, il dit, afin que vous réussissiez. Al-Falah, qui est cité ici, qui est traduit par la réussite, les ulama, ils lui donnent une définition qui est très vaste. Ils disent, tout simplement, Al-Falah, c'est que tu acquiers ce que tu cherches, et que ce que tu crains, ça ne te touche pas, tout simplement. Ce que tu veux, tu l'as, et ce que tu crains, il te touche pas, tu vas l'éviter. C'est ça le falah, c'est ça la réussite. Et Allah Azza wa Jal, donc il a dit, repentez-vous afin que vous réussissiez. Donc afin que vous ayez les choses que vous voulez et que vous espérez, et afin que ça ne vous touche pas ce que vous craignez, c'est-à-dire notamment le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Donc parmi les causes de falah, c'est-à-dire de la réussite, il y a tawba. Et après les deux versets suivants, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilay. Donc demandez pardon à votre Seigneur puis reportez-vous à lui donc là aussi ça montre l'ordre et l'ordre impératif de se repentir à Allah et de lui demander pardon et le dernier verset ô vous qui avez la foi repentez-vous à Allah d'un repentir sincère c'est-à-dire un repentir pur dans lesquelles il y a les conditions qu'on a citées la fois dernière. C'est-à-dire que la personne, elle regrette son péché et elle délaisse automatiquement ce péché et qu'elle ait la ferme intention de ne pas revenir à ce péché. Mais on peut mentionner aussi une quatrième condition, qui est une condition en fait dans toutes les actions, c'est l'ikhlas, la sincérité. C'est-à-dire que cette tawba, pour être nasuha, il faut qu'elle soit faite pour Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire de ne pas se repentir par honte des gens ou pour faire plaisir à mes amis ou à mon entourage. Parce que ça leur plaît que je fasse la salat ou que je délaisse certains péchés. Mais je fais ça pour plaire à Allah. Si j'ai délaissé une obligation, je la fais pour plaire à Allah. Et si j'ai fait un interdit, je le délaisse pour plaire à Allah. Pas par honte ou pour plaire aux autres. لكن هناك مسألة مثلا في الإخلاص أحيانا الإنسان قد يترك أشياء هو متيقن أن هذا الشيء وهذا الشيء من المشتبهات هو متيقن أنه حلال لكنه يتركه حفاظا على عرضه هل هذا جائز أم لا مثلا نترك نأخذ مثلا الخل مثلا أو الجيلاتين أو غير ذلك من الأشياء التي العلماء أو الناس يختلفون فيها بعض الناس يقولون حلال بعضهم يقولون حرام فأنت تعيش في مجتمع مثلا الناس كلهم متعودون على أن الخل يعني المأخوذة من الخمر حرام وأنت درست وطلبت العلم واخترت من أقوال العلماء أنه حلال هل من الأدب وهل ينبغي أن تأكل الخل مثلا أنت تدعو عشرة أشخاص من هذه البلاد الذين تعودوا على القول بأن الخل حرام أنت تأتي تدعوهم ثم تقدم لهم الخل هل هذا يعني ينبغي؟ لا ما يصلح ليس من الأدب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن المشتبهات؟ فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فبعض الأشياء تكون مشتبهة لكن ليست مشتبهة بالنسبة لك أنت درست المسألة وصرت على يقين أن هذا الشيء حلال لا يحرم فلا بأس أن تفعل هذا الشيء أو تأكله أو تشربه إن كان مشروبا لكن في البيت مع امرأتك مع الأولاد لكن خارج البيت والناس كلهم في مجتمعك متعودون على أن هذا الشيء بعينه حرام ما ينبغي فتتركه أمامهم حفاظا على عرضك وتنوي حفظ عرضك لله عز وجل يعني أنت لم تترك هذا الشيء لله أنت تتركه حقيقة للناس لكن ما السبب السبب أن تحافظ على عرضك وهذا سبب مطلوب في الدين يعني الإنسان في الدين الإسلامي مطالب أن يحافظ على عرضه بل الدين جاء بحفظ العرض كما جاء بحفظ الدم وحفظ المال وغير وحفظ الدين وحفظ العقل يعني هذه من الضروريات من الأشياء من الأصول في الإسلام الحفظ على العرض ويروى عن أنس بن مالك هذا ذكره ابن رجب رحمه الله في شرحه على الحديث يعني حديث نعمان بن بشير فمن ترك الشبهات فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام يعني إلا الحرام بين وإن الحلال بين هذا الحديث ابن رجب ساق قصة أن أنس بن مالك رضي الله عنه ذهب إلى الجمعة متأخرا تأخر عن الناس لسبب الله يعلمه نحن لا نعلمه فكان ذاهبا إلى المسجد فإذا الناس يرجعون من الجمعة فاختفى رضي الله عنه اختفى حتى لا يراه الناس فصاحبه الذي كان معه قال كيف تختفي من الناس وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يعني أحافظ على عرضي أستحي من الناس أني تأخرت عن الجمعة هذا لا بأس هذا ليس من الرياء يعني تحافظ على عرضك إن أخطأت أو تأخرت أو قصرت يعني لا تفضح نفسك أستر على نفسك قدر ما تستطيع. Donc comme je disais ici, par rapport au repentir avec la sincérité, etc., il y a quelque chose sur lequel il faut attirer l'attention, c'est si quelqu'un, parfois on peut délaisser une chose pour les gens sans que ce soit blâmable, sans que ce soit d'ostentation. Ça c'est quand il y a des choses qui sont mushtabiha. C'est-à-dire que vous connaissez le hadith, ce qui est halal est clair, ce qui est haram est clair, et entre les deux, il y a des choses ambiguës. Ambigu, ça veut dire les gens ils divergent dessus. Des ulama ils disent que c'est halal, d'autres ils disent que c'est haram, etc. Admettons qu'il y ait une chose, on va prendre par exemple le vinaigre ou la gélatine ou des choses, elles sont ambiguës. Pourquoi le vinaigre il est ambigu? Parce qu'en lui-même il n'y a rien de mal dedans. Mais avec quoi il est fabriqué? Avec de l'alcool. Donc de là les ulama ils ont divergé. Est-ce qu'on regarde le produit fini ou est-ce qu'on regarde le fait qu'il est le résultat d'une opération dans laquelle on a utilisé de l'alcool? Ou la gélatine par exemple, ou d'autres choses que les gens maintenant ils sont habitués à avoir des, ils se posent des questions à ce sujet. Alaykoum salam. Et toi tu vis par exemple dans une société musulmane, où ils sont tous convaincus que le vinaigre il est haram, parce qu'ils ont des ulamas qui leur disent que le vinaigre il est haram. Et toi tu es un talibim ou tu as étudié un petit peu et tu as étudié la question, et puis finalement toi tu penses que, comme ils ont dit beaucoup d'ulamas aussi, que le vinaigre en fait c'est halal. Tu vois rien de mal dedans. Est-ce qu'il fait partie de la politesse et du bon comportement que tu invites 10 personnes à manger de cette ville et que tu leur mettes du vinaigre à table? Tu vas me dire, oui, mais si je le fais pas, ça veut dire je le fais pour les gens, c'est pour les gens, c'est du riya. Là, c'est pas du riya. Là, c'est pour protéger ton honneur. Parce que ces gens, qu'est-ce qu'ils vont se dire après? Qu'est-ce qu'ils vont courir comme bruit? Foulen, il boit du vinaigre et eux, ils sont tous sûrs que c'est haram. Donc tu auras mis ton honneur en comment on appelle ça, tu l'auras en péril, voilà. Tu auras encouru un risque pour ton honneur. Alors que qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith? Celui qui évite les choses ambiguës, eh ben il protège sa religion et son honneur. Donc tu peux protéger ton honneur, ça y a rien de mal. Si tu fais quelque chose, tu délaisses quelque chose pour les gens. Parce que toi cette chose tu vois pas qu'elle est haram, mais tous les gens ils voient que c'est pas bien ou ça se fait pas. Et tu le délaisses pour eux, mais c'est pas pour leur plaire, c'est-à-dire pour protéger ton honneur. Il n'y a pas de mal. Parce que tu n'as pas envie que les gens se moquent de toi, qu'ils parlent sur toi. Ça, c'est quelque chose de normal dans l'islam. Et l'islam, il est venu avec la protection de l'honneur. C'est-à-dire, l'islam, il est venu pour protéger des choses principales qui sont la raison, la religion, les biens, le sang et l'honneur. Donc, l'honneur, ça fait partie des grandes priorités de l'islam. Et de Ibn Rajab, rahimahullah, dans son explication des 40 hadiths, il a cité une histoire. Donc en arabe, je l'ai cité dans le ma'na, je ne la connais pas par cœur texto. Où Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il est parti au Jumu'ah en retard. Donc ça peut arriver à tout le monde. Anas ibn Malik, donc radiallahu anhu, il est parti en retard. On ne sait pas pourquoi, Allah il le sait. Et il a vu les gens revenir du Jumu'ah. C'est-à-dire, ça y est, c'était fini. Et il s'est caché pour pas que les gens ils le voient. Et quelqu'un il lui a dit, comment toi tu te caches des gens? Parce que t'as fait, entre guillemets, bon, t'es arrivé en retard, t'as fait une faute quelque part, tu te caches des gens alors que t'es le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, c'est pour protéger mon honneur. Et ça, c'est pas de riya. Ça, c'est pas de l'ostentation. L'ostentation, ça serait par exemple que j'aille au Jumu'ah pour faire plaisir aux gens qui sont autour de moi, alors que s'ils étaient pas là, j'y serais pas allé, par exemple. Là, c'est de l'ostentation. Mais que la personne, elle cherche à cacher sa faute, ou son manquement ou son péché, pour son honneur, ça y a pas de mal. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري. وعن الأغار ابن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم. يعني في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه كان يتوب يستغفر الله عز وجل مما قد يقع منه من التقصير أو من الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له ذنوب لكن ذنوبه كلها من الصغائر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نعتقد أنه لا يرتكب الكبائر وإنما يرتكب وقد يرتكب بعض الأشياء التي تعتبر تقصيرا في حقه صلى الله عليه وسلم ودائما يتوب إلى الله منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ويتوب إلى الله أكثر يعني في كل يوم أكثر من 70 مرة. وفي الحديث الآخر يقول 100 مرة. يعني كيف نجمع بين الحديثين؟ ربما هذا للتكثير من باب التكثير يعني في الكلام. أنت تريد أن تقول يعني أشياء كثيرة تقول 70. أنت لا تقصد 70 يعني العدد نفسه، إنما تقصد كثيرا، أتوب إلى الله كثيرا. ويبعد من الذهن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد استغفاره وتوبته، لأن الاستغفار يعني يأتي بالمناسبة، وكذلك التوبة تأتي بالمناسبة. يعني بعيد جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد كم يستغفر وكم يتوب إلى الله عز وجل في اليوم، وإنما قال 70 أو 100، بمعنى أتوب إلى الله كثيرا. لذلك لم يقل توبوا إلى الله 70 مرة أو توبوا 100 مرة، إنما قال توبوا، فإن يتوبوا في اليوم 100 مرة أو 70 مرة، بمعنى أتوب إلى الله مرات كثيرة، أتوب إلى الله دائما وكثيرا. فكذلك أنتم ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فعلينا أن نتوب إلى الله عز وجل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله ويتوب إليه ما بين 70 و100 مرة في كل يوم، فكيف بنا نحن المذنبون المجرمون؟ فينبغي لنا أن نكثر من هذا الشيء. وكذلك نأخذ من هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي الناس ويرشدهم بفعله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أمر بشيء هو أول من يفعل، ليس كأمثالنا يعني نتكلم وندعو وندرس لكن تقصيرنا ظاهر، يعني قد ندعو إلى أشياء ولا نطبقها أو ننهى عن أشياء ونرتكبها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال افعلوا هو أول من يفعل، وإذا قال لا تفعلوا فهو أول من يفعل صلى الله عليه وسلم. وكذلك أئمة الهدى في كل عصر، وفي عصرنا هذا كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، يعني هكذا كانوا لمن قرأ سيرتهم، يعني ما يأمرون شيئا إلا وهم يفعلونه، ولا ينهون عن شيء إلا وهم يجتنبونه. والشيخ عبد العزيز بن باز مثلا كم كان يدعو إلى السنة وإلى التوحيد، وكان هو دائما يذكر الله عز وجل، بل يعني هذا قال لي بعض الإخوة الذين حضروا معه وأكلوا معه، يبسمل عند كل أكلة، يعني يقول بسم الله يأخذ يأكل، يقول بسم الله يأخذ في كل أكلة، يقول بسم الله، ليس فقط في أول الطعام، وإنما بسملته مستمرة في الأكل. وإذا سكت يعني ليس في هناك حوار أو كلام، أو لا يأكل ولا يشرب، يذكر الله عز وجل دائما. هكذا كان الشيخ عبد العزيز بن باز، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر دائما. ومثلا يذكر كذلك قصة للشيخ عبد المحسن العباد، هو عالم في المدينة، أنه كان يعني دخل مع الشيخ عبد العزيز بن باز في المسجد النبوي بعد أذان الظهر، يعني بين أذان الظهر والإقامة، والشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى صلى ركعتين السنة، فقال الشيخ عبد العزيز كم صليت؟ قال ركعتين، قال زد 2 حتى تتم السنة، لأن السنة بين أذان الظهر والإقامة أن تصلي إما 2 وإما يعني الأتم 4، وكذلك بعد الصلاة الفريضة هناك ركعتين، ولكن الأكمل أن تصلي ركعتين أخريين، يعني ركعتين ثم ركعتين، 4 قبل و4 بعد، لم يتركها حتى في هذا الشيء، وهو كان صلى قد صلى 4 قبل ذلك رحمه الله تعالى. Donc ici il y a deux hadiths. Le hadith le premier qui dit, où le prophète a dit صلى الله عليه وسلم, par Allah Azza wa Jal, je demande pardon à Allah et je me repens à lui dans la journée plus de 70 fois. Ça c'est dans le Bukhari. Et l'autre hadith dans Sahih Muslim, il dit, ô vous les gens, repentez-vous à Allah et demandez-lui pardon, car je me repens à Allah dans la journée plus de 100 fois. Donc premièrement, quelqu'un il va dire, mais de quoi il se repent? Il se repent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tahqiq, c'est-à-dire la parole authentique à ce sujet, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des péchés. Mais ce sont des péchés, c'est-à-dire c'est, pour nous c'est loin, c'est-à-dire c'est vraiment des choses très minimes. Ça peut être un petit manquement ou quelque chose comme ça. Et en tout cas, c'est jamais des péchés majeurs. comme il l'a montré Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit c'est, les prophètes ne font pas de péché majeur, et il peut arriver de leur part des péchés mineurs ou alors un manquement, un manque de rappel, etc. Et donc tout de suite ils se repentent à Allah Azza wa Jal et ils demandent pardon. Sinon ça ne voudrait rien dire le fait qu'Allah ait dit je t'ai pardonné ce que tu as fait avant et ce que tu feras plus tard au prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'avait pas de péché, il n'aurait pas besoin d'être pardonné. Mais ces péchés, ce ne sont pas les mêmes que, c'est-à-dire sont beaucoup plus minimes que ce qu'on peut imaginer de notre part, par exemple. Donc premièrement, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il se repentait à Allah et demandait pardon plus de 70 fois, et dans l'autre hadith il dit 100 fois. Comment on peut regrouper les deux? C'est de dire que parfois l'arabe, il cite des nombres pour dire beaucoup. Par exemple, des fois ils disent 70 000, 700 000, ce qui est voulu par là, c'est ni 70 000, ni 700 000, ça veut dire énormément. Donc peut-être que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de cette façon-là, parce que c'est une façon de parler qui est connue chez l'arabe. Il dit 70, ils veulent dire beaucoup de fois. C'est comme s'il disait je me repens beaucoup de fois dans la journée, alors faites-en autant. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah a pardonné ses péchés passés, ses péchés futurs, il se repent tant de fois dans la journée, alors qu'en est-il de nous? C'est-à-dire nous on doit prendre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on en a encore plus besoin du repentir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre exemple qu'on doit suivre. Donc on doit essayer comme lui de se repentir beaucoup et de demander pardon à Allah azza wa jalla le plus possible. Et aussi donc, ce qu'on peut retirer, une des grandes leçons qu'on peut retirer du hadith, même si elle n'a pas de rapport avec le repentir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il ordonne quelque chose, c'est le premier à le faire. Et quand il interdit quelque chose, c'est le premier à s'en écarter. Pas comme nous malheureusement, à notre époque les prêcheurs ils sont nombreux, mais c'est-à-dire ils font ce qu'ils peuvent. La plupart d'entre eux ils font pas ce qu'ils ordonnent et ils évitent pas ce qu'ils interdisent aux autres. Ils sont comme les gens à qui ils parlent devant eux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit faites quelque chose, il le fait avant les autres, et quand il interdit, il le fait pas, il l'évite avant les autres. Et ça c'est, comme je disais, c'est la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est aussi le comportement des imams de la sunna de chaque époque. Si on lit leur sirah, leur biographie, c'est ça qu'on trouve. C'était pas, les ulama, c'est pas juste des ulama qui parlent, ils font avant de parler. Ils ont des actes et des œuvres qui montrent leur piété et que tout ce qu'ils savent, ils le mettent en pratique. Comme par exemple les deux imams de notre époque qui sont Cheikh Abdelaziz ibn Baz et Cheikh Al-Albani rahimahumullah. Si on lit leur sirah, c'est ça qu'on trouve. Comme le fait que Cheikh Abdelaziz ibn Baz rahimahullah, lui qui appelait toujours à la sunna, et ben effectivement il délaissait aucune sunna. Comme certains frères qui ont mangé avec lui nous ont raconté que pour chaque bouchée, chaque poignée de nourriture, il dit bismillah quand il mange. C'est-à-dire il dit bismillah, il mange, et une fois qu'il a fini, il redit bismillah avant de prendre une autre bouchée. Alors que nous on dit bismillah, après ça y est, c'est parti pour la guerre avec la nourriture. Mais lui, rahimahullah, il dit bismillah à chaque bouchée. Et aussi, rahimahullah, il faisait dhikr tout le temps. S'il n'était pas en train de manger ou en train de discuter avec quelqu'un, il faisait le dhikr continuellement. Il était en train de dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, etc. Donc c'est pas juste quelqu'un qui appelle à la sunna. Avant d'y appeler, il l'a mis en pratique. Aussi il y a une autre histoire, c'est-à-dire qui m'a beaucoup marqué, c'est l'histoire qu'il a racontée Cheikh Abdel Mohsin Al-Abed dans sa conférence où il a parlé justement de Cheikh Ibn Baz. Et il a dit qu'une fois il est rentré avec lui donc à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam après l'adhan du dhuhr. Donc Cheikh Abdel Mohsin hafidhahullah, il a prié deux raka'a, et Cheikh Ibn Baz lui il en a fait quatre, et il a dit à Cheikh Abdel Mohsin combien tu as prié? Il a dit j'en ai fait deux. Il lui a dit rajoute deux, c'est-à-dire pour vous montrer comment il lâchait rien de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il le faisait lui-même, parce que la sunna entre l'adhan du dhuhr et l'iqama, c'est de faire deux raka'a ou quatre, le mieux c'est quatre. Et aussi après le dhuhr, le mieux c'est de faire deux ou quatre. Donc lui il l'a pas laissé faire deux, il lui a dit rajoute deux pour faire la meilleure façon. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. متفق عليه. يعني سقط على بعيره يعني وقع عليه وجده بعد أن أضله. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها أيس بمعنى يعني لا يرجو أن يجدها مرة أخرى، يظن أنها لن ترجع أبدا. فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. نعود إلى الحديث: لله أفرح بتوبة عبده، يعني إذا تاب العبد من الذنوب الله يفرح أشد مما يفرح أحدنا. إذا ضل بعيره يعني الجمل، إذا كان في سفر مثلا وفقد بعيره، نام مثلا وبعيره راح أضله ثم عاد، كيف يفرح هذا الإنسان؟ كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: كأنه يفرح بالحياة بعد الموت، لأنه إذا كان في أرض فلت يعني صحراء ما فيها أحد، بعيره ذهب سيموت، لا يستطيع أن يمشي هذه الكيلوات، مئات وربما 200 300 400 كيلومتر على الأقدام، هذا لا يمكن، سوف يموت من الجوع أو من العطش أو من التعب. فكيف إذا رجع البعير أمامه؟ يفرح، يعني الفرح شديد. فالله يفرح فرح أشد من هذا الفرح إذا تاب العبد، هذا من رحمة الله عز وجل، يعني يدل على أن الله يحب من عبده أن يتوب، ويحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والرواية الأخرى يعني قليلا يعني أطول: فانفلتت منه يعني راحت، وعليها طعامه وشربه، يعني طعام وشرب هذا الرجل على البعير، إذن إذا ذهب البعير ذهب الطعام وذهب الشرب، إذن ما الذي أمامه؟ الموت. فأيس منها، أيس بمعنى ليس هناك رجاء، خلاص لا يرجو أن ترجع. فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، اضطجع يعني ينام على جنبه، وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك أيس إذ هو بها قائمة عنده، يعني رجعت، يعني يستيقظ كذا ويراها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح، يعني أحيانا الإنسان إذا كان فرحه شديد يعني يخرج من فمه أشياء هو لا يقصدها، كذلك العكس إذا كان غضبان يخرج من فمه أشياء هو لم يقصدها، وكذلك إذا كان جاهلا قد يخرج من الإنسان أقوال تعتبر كفرا لكنه يجهل، جاهل لا يدري أن هذا كفر. فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يعني عكس المسألة، قال أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، يعني كذلك نأخذ من هذا الحديث العذر، يعني أن الإنسان إذا قال قولا أو فعل فعلا لكن لم يقصد هذا القول، معنى ما قال، مثلا يطلق زوجته بكلام لكن هو لم يقصد هذا المعنى، قصد معنى آخر، أو قال كما نقول سبق لسان، يعني يخرج كلام هو لم يقصده إنما خرج هكذا سبق لسان كما وقع لهذا الرجل، هل هذا الرجل قصد أنه رب لله عز وجل وأن الله عبده سبحانه وتعالى؟ لا أبدا، لذلك هو معذور لأنه لم يقصد هذا الكلام، لم يقصد هذا المعنى، هذا المعنى خرج منه بدون قصد. كذلك إذا كان غضبان، الإنسان الغضبان الذي لا يملك ما يفعل، لا يدري ما يقول ولا ما يفعل، لا نعتبر ما يخرج من فمه، قد يقول كلاما هو كفر، لو قاله بدون غضب لكفرناه ولا أتينا به إلى القاضي ويقيم عليه الحد، لكن غضبان قد يعذر، يعني القاضي لابد له يعني في الأحكام الشرعية قبل التطبيق أن يراعي هذه الأشياء، يعني في الكلام الذي يخرج من الإنسان الذي قد يكون طلاق أو عتق رقبة أو كفر يعني ردة، القاضي أولا يتحقق هل ربما قاله فرحا أو غضبا أو به جنون أو جاهل، والجهل يعني ليس عذرا مطلقا، وعذر في بعض المسائل ليس في كل المسائل، يعني العلماء يختلفون في بعض المسائل الكبار. Donc le hadith suivant, c'est le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu, où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah est plus heureux ou a plus de bonheur du repentir de son serviteur que l'un d'entre vous qui a perdu son chameau et qui l'a retrouvé, c'est-à-dire qui a retrouvé son chameau après qu'il l'ait perdu dans une terre déserte. Ça, c'est dans les deux sahih. C'est-à-dire comment une personne, comme c'est cité dans l'autre version, qui est dans Sahih Muslim, il dit Allah a plus de bonheur, ressent plus de bonheur du repentir de son serviteur quand il se repent à lui, que l'un d'entre vous qui était avec son chameau dans une terre déserte et son chameau est parti alors qu'il portait sa nourriture et sa boisson. Et il a désespéré de le retrouver et il est parti. Donc ça, c'est un exemple en fait. Il est parti sous un arbre et il s'est allongé sous l'ombre de cet arbre et il désespérait de sa monture. Et alors qu'il était dans cet état, il revoit sa monture debout à côté de lui. Et il a pris, c'est-à-dire les choses par lesquelles on attache le chameau. Et il a dit, tellement il était heureux, il a dit, « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Il s'est trompé tellement il était heureux. Donc Allah, il est plus heureux que la personne qui était dans le désert avec son chameau, et son chameau il porte sa nourriture et sa boisson. C'est-à-dire si son chameau il part, il lui reste plus rien que la mort devant lui. Et donc il est désespéré, il va dormir sous un arbre et comme ça d'un seul coup il se réveille et il voit son chameau avec sa nourriture et sa boisson à côté de lui. Comme il dit Cheikh Al-Uthaymeen, Hada, celui-là, c'est comme s'il était heureux de la vie après la mort. C'est comme s'il était mort et tu le fais revivre. Il ressent le même bonheur. Parce que devant lui, il n'avait que la mort et d'un coup, tout revient à la normale. Allah Azza wa Jal, il a plus de bonheur, il est plus heureux du repentir de son serviteur que cette personne-là. C'est-à-dire pour vous montrer à quel point Allah Azza wa Jal aime de chaque personne qui se repente. Et il aime ceux qui se repentent à lui, Azza wa Jal. Aussi, une des choses qu'on peut retirer du hadith, c'est quand l'homme il a dit tellement il était heureux, il a dit une parole qui, c'est-à-dire s'il l'avait dite sans raison, sans être heureux, sans être en colère, le prophète il aurait dit, il est sorti de l'islam. Il a dit à Allah, je suis ton Seigneur et tu es mon serviteur. Mais il s'est trompé tellement il était heureux. C'est-à-dire que la personne parfois elle peut être tellement heureuse, tellement distraite, ou tellement en colère, ou tellement ignorante, ou tellement folle, c'est-à-dire il y a beaucoup de causes, qui fait qu'il sort de lui des paroles qu'il n'a pas voulu dire vraiment. Il n'a pas voulu dire cette signification. Et dans la religion, donc ça c'est une excuse pour pas qu'on prenne en compte ce qu'il a dit. Donc c'est une excuse si la personne, par exemple, elle dit du kufr. Si elle dit du kufr alors qu'elle est dans une colère où elle maîtrise plus ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait, ou alors qu'elle dit du kufr mais c'est sorti de sa bouche avant même qu'il y pense, et il n'a pas pensé ce qu'il dit, là il peut être excusé. C'est-à-dire c'est une excuse. Et notamment dans l'application des peines, le juge il l'excusera s'il s'avère qu'il a dit cette parole à cause de ça. Et c'est aussi donc dans tout ce qui doit être appliqué au niveau de la législation islamique, comme le divorce par exemple. S'il prononce le divorce mais sans l'avoir vraiment voulu, et ça sort de sa bouche plus vite que prévu, sans même qu'il l'ait pensé, alors le juge il n'applique pas le divorce dans un cas comme ça. Ou alors le fait qu'il affranchit un esclave en colère ou sans faire attention à ce qu'il dit, sans avoir vraiment voulu affranchir son esclave, de la même façon, donc ça ne compte pas. Tout ça, on peut le retirer du hadith. Mais il faut faire une différence entre ça et celui qui dit. Donc, le fait que la personne, elle sache plus ce qu'elle dit, à cause du bonheur ou de la colère ou de la folie ou de l'ignorance. Et avec l'ignorance, il y a une divergence chez les savants sur le niveau de l'ignorance. Est-ce que c'est une excuse dans la mécréance ou pas? Ou est-ce que c'est une excuse seulement dans certaines questions de mécréance? Par contre, c'est pas une excuse. Le fait de se moquer et de vouloir plaisanter, là par contre c'est pas une excuse, parce qu'Allah Azza wa Jal dit wala in sa'altahum sayaqulun wala in sa'altahum, non c'est pas ça, sayaqulun innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة أخرى بأنهم كانوا مجرمين. يعني هذه القصة في أناس من الصحابة أو من أناس كانوا مع المسلمين وكانوا مسلمين ليسوا من المنافقين مسلمون ضحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. كانوا في سفر في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الليل اجتمعوا وكانوا يضحكون يتكلمون، وقال أحدهم معنى كلامه أنا لا أحفظه: ما رأينا يعني أجبن ولا أطول بطونا، يعني أولاس يعني يحبون الدنيا، من هؤلاء القراء. القراء يعني الفقهاء، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكبار. فقام أحدهم يعني أنكر عليهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، والوحي سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو الله عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي هذا النذير هذا المخبر. فأوحى الله عز وجل إلى النبي: سيقولون إنما كنا نخوض ونلعب. قل يعني بعد الآية بعد: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. يعني أن الله عز وجل من فوق سبع سماوات كفرهم لأنهم يستهزأوا وسخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وهل الله عز وجل قبل عذرهم؟ لا، حتى رأسهم الذي خرج منه هذا الكلام جاء وكان يمسك خيطان بعير النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إليه ويقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني أن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم كفرهم، صاروا كفارا. إن نعفو عن طائفة منكم، لأنهم تابوا، يعني بعضهم تابوا إلى الله عز وجل واعتذروا، فالله عز وجل قبل توبتهم. لكن فرق بين أن يقبل عذرهم وأن يقبل توبتهم. العذر لم يقبل، صاروا كفارا، لكن بعد أن صاروا كفارا تابوا إلى الإسلام لأنهم علموا أنهم وقعوا في الكفر فتابوا. لكن هل صاروا كفارا أولا؟ نعم صاروا. ونعذب طائفة أخرى بأنهم كانوا مجرمين، يعني طائفة أخرى منهم لم يتوبوا فكانوا من المنافقين ومن الكافرين. هذه الآيات وهذا الحديث ماذا نفهم منه؟ أن الإنسان الذي يضحك على النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذر، هذا يكفر بالحال. لا نقول هل قصدت ما قلت، ربما تضحك، ولو ضحك ولو استهزأ وهو مسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصد أن ينقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استهزاء وسخرية هذا يخرج من الإسلام بدون خلاف بين العلماء، هذا يكفر مباشرة. وإذا كانت بلاد إسلامية هذا يجر إلى القاضي يقيم عليه الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. فما بالكم بمن سب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في من يضحك على النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بمن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخطر يسب الله عز وجل، هذا كذلك العلماء يقولون هذا لا يعذر. لا نقول ربما لا يدري، كيف لا يدري؟ يعني لو سببت أنت أمه ماذا يقول؟ هل يقول لا أدري، ربما تسب أمي ما في شيء؟ لا، يغضب ينكر عليك. فكيف بمن يسب الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي أو يضحك من السنة؟ وهذا يعني واقع وحاصل بكثرة في هذا المجتمع، يرون اللحية مثلا يضحكون، أو يرون تقصير الثوب وهذا شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون. يعني هل هذا من أدب المسلمين؟ هل هذا يخرج من إنسان يحترم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يشهد أن هذا الرجل الذي هو محمد بن عبد الله مرسل من عند الله ليأمرنا وينهانا، فأنت إذا فعلت ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم يضحك عليك، هذا أليس هذا التناقض؟ يقول محمد رسول الله لكن إذا فعلت ما يقوله محمد يضحك عليك، هل أليس هذا التناقض؟ هذا ليس فقط تناقض، هذا كفر بالله عز وجل. وهذا بدون خلاف بين العلماء، الذي يسب الله كما يفعل الآن، أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ بالله أو بالنبي أو بأهل الدين بسبب دينهم، أو يستهزئ بشيء ممن جاء به الإسلام، هذا يكفر ويخرج من الإسلام ولا يعذر، ليس له أي عذر، إلا كما قلنا إن كان غضبان أو لكن الجهل لا، أن يكون جاهلا هذا لا يعذر، يعني يقول أنا ما أدري أن سب الله حرام، أن الاستهزاء بالنبي حرام، هذا لا يعذر، أو يقول أنا ما يعني أنا فقط أضحك، الناس كثيرا ما يقولون هذا، قل أنا أضحك معك فقط، لا لا تقبل، لابد أن تشدد في هذا الشيء، لا تقبل العذر، لأن الله عز وجل قال لا تعتذروا، سيقولون إنما كنا نخوض ونلعب، هم قالوا نخوض ونلعب يعني نضحك، ما قصدنا الكفر، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، هذا العذر غير مقبول، قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني كانوا مسلمين ما كانوا من المنافقين، كفرتم بعد إيمانكم بسبب هذا الاستهزاء. وكم من الناس الآن أخطر من ذلك، ينتسبون للدعوة إلى الله، يعني إذا وقع وحصل هذا الشيء من عوام المسلمين أو من فساق المسلمين الذين يعمرون المقاهي ولا يصلون ويشربون الخمر، يعني ربما تفهم أنهم بعيدون عن الدين، لكن هذا أحيانا يحصل من أناس يقومون على المنبر يجلسون ليدعوا إلى الدين، ثم تجدهم يضحكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرجون ينسلخون من الإسلام بدون أن يشعروا، ولو قالوا وما قالوا، ولو ادعوا ما ادعوا، ولو انتسبوا إلى من انتسبوا، الذي يضحك على اللحية عن علم أو غير ذلك كالحجاب مثلا، هذا يخرج من الإسلام، وهذا كافر باتفاق العلماء، هذا ليس فيه خلاف. Donc par contre, il faut faire attention, c'est quand on dit que la personne elle est excusée de ce qui sort, si elle n'a pas voulu dire ce qu'elle disait, il ne faut pas confondre cette question et la question de l'istihza, la moquerie. La moquerie, Allah Azza wa Jal dans le Coran, il nous a clairement montré que c'est une excuse qui n'est pas acceptée. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque des Sahaba, donc ils étaient dans un voyage pour partir avec, dans une bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et certains, un petit groupe d'entre eux, qui étaient des musulmans, c'était pas des munafiqin, mais des musulmans dont la foi était faible, peut-être des nouveaux convertis, Allahu alam. Et ils jouaient, ils rigolaient, et l'un d'entre eux il a dit, on connaît personne qui a des ventres plus gros, et qui, il veut dire par là qui aime plus de dunya, et qui sont plus peureux lors de la rencontre de l'ennemi que nos qurra. Qurra, c'est-à-dire ceux qui lisent. Il voulait dire par là le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les grands sahaba. Les sahaba qui sont connus pour leur ilm, comme Ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b et Mu'adh ibn Jabal et autres. L'un d'entre eux s'est levé et il leur a dit, c'est-à-dire il les a blâmés et il est parti au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est parti au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah avait déjà révélé ce qui s'était passé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a révélé les versets qui disent, si tu leur demandes, ils diront, nous ne faisons que jouer et rigoler. Dis-leur, est-ce que c'est d'Allah, de ces versets et de son messager que vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez mécru après votre foi. Si nous châtions une partie, si nous acceptons le repentir d'une partie d'entre vous, nous châtirons une autre partie d'entre vous parce qu'ils étaient des criminels. C'est-à-dire, ce qu'on en retire, et le chef, celui qui avait dit ça, il venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il saisissait la corde de son chameau et il disait non, on faisait que rigoler et jouer. Et le prophète il lui répondait comme Allah a répondu. Est-ce que c'est d'Allah, de son messager, de ses signes que vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez mécru après avoir eu la foi. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il les a, comme on dit, kaffar. C'est-à-dire il les a déclarés mécréants à cause du fait qu'ils se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Et des gens de science parmi les compagnons. Et il n'a pas accepté d'eux une excuse. Parce que si vous lisez sur le takfir et sur la mécréance, il y a des excuses parfois qui sont acceptées. Il y a le fait que la personne, comme on a dit, elle savait pas, elle sait pas ce que c'est sorti tout seul, par colère ou autre chose. Il y a aussi l'ignorance, dans certains cas, et avec une divergence chez les ulama. Mais la moquerie et le fait de vouloir rigoler, ça c'est pas une excuse. Sans excuse, sans divergence chez les ulama, c'est pas une excuse. La personne qui se moque d'Allah ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les ulama ils vont plus loin. ou qui se moquent des compagnons du prophète à cause de leur islam et de leur secours du prophète, ou qui se moquent de la sunna du prophète, de quelque chose que le prophète et l'islam a ramené, celui-là il sort de l'islam direct. C'est-à-dire on ne lui dit pas est-ce que tu savais pas, il sort de l'islam automatiquement. Et c'est tout à fait logique, parce que si toi tu insultais sa mère par exemple, il dirait pas Ma'ali, je t'ai ignorant, tu sais pas que c'est pas bien d'insulter ma mère. Ça c'est quelque chose que toute personne elle sait que c'est pas bien. Donc qu'en est-il d'insulter Allah et de se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc même si la personne elle est musulmane et elle croit et elle aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si elle rigole sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah il a dit dans surat at-tawbah, elle sort de l'islam tout de suite. Il devient comme un juif et un chrétien. Il faut qu'il fasse tawbah et qu'il revienne à Allah azawajal pour que son islam il soit accepté. C'est-à-dire il n'est pas condamné, il peut revenir à l'islam. Il peut se repentir et revenir à l'islam. Mais là, tout de suite, il est sorti de l'islam comme eux, ils étaient sortis de l'islam. C'est pour ça le verset d'après, il dit « Si nous acceptons le repentir de certains d'entre vous, nous allons punir les autres. » Parce que ces gens-là, justement, certains d'entre eux, ils se sont repentis. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas devenus mécréants. Il y a une différence. Ils sont devenus mécréants et Allah leur a révélé qu'ils étaient mécréants et après, quand ils ont su ça, ils se sont repentis. Mais regardez le danger. D'abord, ils sont passés par la mécréance, s'ils étaient morts dans cet état. Et en plus, une autre partie, eux, ils ne se sont pas repentis, ils sont devenus parmi al-munafiqi. Une autre chose que les ulama ils disent aussi par rapport à ces versets, c'est qu'il y a combien de personnes qui ont parlé ce jour-là? Dans l'histoire qu'on a racontée, il n'y en a qu'une. Pourtant, Allah Azzawajal, il ne s'est pas exprimé à cette personne. Comme dans l'histoire de Ka'b ibn Malik et des deux autres qui n'étaient pas partis à la bataille de Tabouk, Allah il a bien dit وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. Il a bien cité les trois. Mais dans cette histoire, il n'y en a qu'un seul qui a parlé et Allah il s'est adressé à tout le groupe. Pourquoi? Les ulama ils disent parce que celui qui écoute la moquerie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est là et qui rigole avec, il est dans le même sac. Il sort de l'islam comme l'autre il est sorti de l'islam. Lui qui s'est moqué du prophète, il sort de l'islam. C'est-à-dire c'est devenu comme un juif et un chrétien. Et Hadha qui l'écoute et qui rigole avec lui, il sort avec. Pour vous montrer le danger, c'est pas une question. Et ça c'est une question, ce que je suis en train de vous raconter là, il n'y a pas de divergence entre les savants. C'est pas une question genre c'est léger ou il y a une divergence. Non, là, c'est une question très dure. Ça c'est sur la moquerie. Alors qu'est-ce que vous pensez de celui qui insulte Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les gens ils font maintenant? Maintenant les gens ils se font mal. Dans toute dunya, il n'y a rien trouvé d'autre à insulter qu'Allah Azzawajal, فوق السماء. Tu n'as rien trouvé d'autre à insulter qu'Allah ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui-là, c'est pareil. C'est-à-dire, dans le jugement islamique, il sort de l'islam directement. Sans qu'on lui demande est-ce que tu savais ou est-ce que tu ne savais pas. Et le juge, il lui applique la peine légale dont le prophète a dit celui qui change sa religion, tuez-le. Donc là, bien sûr, on parle d'un état islamique, on ne parle pas d'ici. Pour vous dire la gravité de ce qui peut sortir de la bouche des gens. Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'u al-layl hatta tatlu' ash-shamsu min maghribiha rawahu Muslim. Wa an Abi Hurayra radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم. يعني هنا يقول إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، مع أن المفروض أن يتوب مباشرة الذي يفعل الذنب الحرام في النهار، ما المطلوب أن يتوب، ولكن لو تأخر ولو مدة طويلة وتاب إلى الله عز وجل هل هذه التوبة مقبولة؟ نعم، بدليل هذا الحديث الله يبسط يده بالليل ليتوب من مسيء النهار. لكن الإنسان على خطر، ما يدرك أنك سوف تدرك الليل. أنا إذا وقعت في الحرام وتقول أنا أتوب غدا، أتوب بعد أسبوع، أتوب بعد أن أتزوج، أتوب بعد الحج، أتوب بعد 40 سنة، ما يدرك أنك سوف تدرك هذا الزمن، ربما تموت اليوم. ربما تقول لأمك سأشتري الخبز وتموت في الطريق فلا ترجع ولا تأكل لا الخبز ولا التاجين ولا الكسكس. هذا صحيح. ربما تقول سوف أحج، تسافر تموت في الحافلة أو تموت في الطائرة. هذا الشيء يقع كل عام. نسمع واحد سافر إلى الحج مات قبل أن يصل إلى مكة، وهو يقول أنا أتوب بعد الحج أو بعد الزواج. ربما لا تجد امرأة أبدا. هذا صحيح أم لا؟ ربما لا تجد امرأة إلا مع التعب الشديد، تبحث سنة سنتين ثلاث، وفي آخر يعني آخر حل تذهب إلى البلاد حتى تتزوج. كم سنة يأخذ؟ 5 سنوات 6 سنوات، وأنت تقول أتوب بعد الزواج. ما الذي يدرك؟ ربما لا تتزوج، ربما تموت قبل الزواج، ربما الله عز وجل لا يسهل ولا يوفقك للتوبة، لأنك يعني الجزاء من جنس العمل. يعني أنت كنت في غفلة، ولما كنت في اليسر والسهولة دائما كنت تؤخر التوبة. فالله عز وجل إذا جاء الزواج أو جاء الحج لا يوفقك للتوبة، تجد نفسك تريد أن تتوب ولا تستطيع. يعني لا تأمن من مكر الله عز وجل. الله يؤاخذك ويعذبك بجنس ما عملت، غفلت فيؤاخذك الآن لا تستطيع أن تتوب. إذن الإنسان مطالب بالمبادرة والمسارعة إلى التوبة، وقال حتى تطلع الشمس من مغربها، والحديث الآخر من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وكون الشمس تطلع من مغربها هذا من أشراط الساعة الكبرى العشر، يعني وقوع الساعة يعني يوم القيامة له أشراط بمعنى علامات، كمجيء المهدي المنتظر الذي هو اسمه محمد بن عبد الله، ومجيء المسيح الدجال، ومجيء عيسى بن مريم، وخروج يأجوج ومأجوج، ثم نار تحشر الناس يعني تدفع الناس من المشرق. وكذلك من العلامات الكبرى خروج الدابة، وكذلك طلوع الشمس من مغربها. يعني بدلا أن تطلع من هناك اليوم تطلع من هناك. كيف؟ يعني بعض من يتبع عقله ويقدم عقله على النصوص الشرعية يقول هذا لا يمكن. ألا تؤمن بأن الله على كل شيء قدير؟ ألم تؤمن بأن الله أصدق حديثا وأقوم وأصدق قيلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. والنبي صلى الله عليه وسلم هناك حديث في صحيح البخاري مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني معنى الحديث لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. بصرة مدينة في الشام. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر يقول لن تقوم الساعة حتى تخرج نار من دار الحجاز، الحجاز منطقة مكة والمدينة، تضيء أعناق الإبل يعني أعناق الجمل في بصرة في الشام. يعني نار كيف؟ نار في المدينة تضيء في بصرة في الشام. كم بين المدينة والشام؟ ممكن 1000 كيلومتر. هذه وقعت سنة 654. يعني المؤرخون المسلمون كتبوا عن هذه الواقعة، يعني نار خرجت من المدينة سنة 54 و600، يعني في زمن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. والإمام ابن كثير رحمه الله كتب عن هذه النار بقيت شهرا كاملا في المدينة. قالوا يقدرونها كانت يعني لو جعلت منارة، منارة مسجد ثم منارة ثم منارة، هكذا كانت يعني ربما 50 متر أو 1000 متر، وبقيت شهرا كاملا في المدينة. والناس في الشام كانوا يرون ضوءها، ضوء يعني نور هذه النار. والناس في قرية تسمى أظن التيمة، يعني تبعد عن المدينة بتقريبا 150 كيلو، كانوا يكتبون في الليل يستضيئون بضوء هذه النار. هذا مكتوب في التاريخ الإسلامي، ليس عالم أو عالمين، عدة علماء تكلموا عن هذه الواقعة، هذه النار. كان الطلاب والعلماء والذي يرسل الرسائل يكتب في الليل، ليس له سراج إلا هذه النار التي في المدينة 150 كيلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما المقصود من هذا الكلام؟ إذا قال أن الشمس سوف تطلع من مغربها، والله نقول إنها ستطلع من مغربها، لكن هذا قبل قيام الساعة بقليل، وهذا يعني بعد أن تطلع الشمس من مغربها التوبة لا تقبل، لأن الحديث أخبر أن الناس إذا رأوا الشمس طلعت من مغربها يؤمنون أجمعون، يعني النصارى واليهود وكلهم سوف يسلمون، لكن إسلامهم لا يقبل، الله لا يقبل، إيمانهم لا يقبل، إن لم يكن آمن من قبل أو كسب في إيمانه خيرا كما قال الله عز وجل. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي وقال حديث حسن. يعني كون الشمس تطلع من مغربها هذه يعني من شروط التوبة، يعني أن نتوب إلى الله عز وجل قبل أن تطلع الشمس من مغربها. هذا الشرط يخص من؟ يخص من من الناس؟ كل الناس. وهناك شرط يعني وقت محدد للتوبة لكل أحد بعينه، وهو الموت. وإذا بلغت الحلقوم، يعني إذا بلغت النفس الحلقوم وجعل الإنسان يغرغر، خلاص يعلم بيقين أنه سيموت الآن، إذا تاب إلى الله يعني نوى التوبة أو قال أتوب إلى الله، هذا لا يقبل منه، لأنه في آخر لحظة لا يقبل التوبة. لكن هذا فرق بين هذا وبين الإنسان مثلا على سريره شهر شهرين يعرف أنه سوف يموت بالقرائن بالعلامات، يعني المرض مرض شديد وهكذا، هل هذا توبته تقبل؟ نعم تقبل، لأنه ليس لا يغرغر، إنما مريض، وإن كان يدري أنه سوف يموت. وربما هذا من رحمة الله عز وجل على هذا الإنسان، أن الله أنذره، يعني كأن الله أنذره سوف تموت بعد أسبوع أسبوعين، كيف يدري؟ المرض مرض شديد، هذا تقبل توبته. لكن إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني الملائكة أقرب إلى هذا الميت منكم أيها يعني بني آدم، ولكن لا تبصرون لا ترونهم، لأن التوبة لا تقبل، وإن نطق بها أو نواها لا تقبل. فهذا شرط يخص كل بني آدم، يعني كل إنسان بعينه. دونك لو حديث دابري يدي الله عز وجل دونك étend sa main la nuit pour que celui qui a fait du mal le jour se repente. Et il tend sa main le jour pour que celui qui a fait du mal la nuit se repente. C'est-à-dire ça veut dire que Allah Azza wa Jal. Et après, à la fin, il dit jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Orient, de l'Occident, c'est-à-dire de l'endroit où elle se couche d'habitude. Donc ça, c'est dans Sahih Muslim. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, à tout moment, il accepte le repentir. Et il tend sa main, Azza wa Jal, le jour et la nuit pour ceux qui se repentent. Et aussi, ça prouve que le repentir, même si tu dures pendant des années sur le péché et que tu te repentes, ton repentir, il est accepté. Parce que normalement, celui qui fait du mal le jour, c'est le jour qu'il doit se repentir. C'est tout de suite. Mais même si son repentir, il le retarde jusqu'à la nuit, Allah, il l'accepte quand même. À condition, bien sûr, toujours, nous, on parle du repentir qui remplit les conditions qu'on a déjà expliquées. Mais ça ne veut pas dire que l'être humain, il doit être trop facile envers lui-même et laxiste. Et il se dit, ben, j'ai le temps de me repentir. Parce qu'il ne sait pas quand est-ce que la mort elle va le prendre. Les gens ils disent, par exemple, je vais me repentir quand j'aurai 20 ans. L'autre, il dit quand j'aurai fait le hajj. L'autre, il dit quand je me serai marié. L'autre, il dit quand j'aurai 40 ans. Alors qu'il ne sait pas ni s'il va se marier, ni s'il aura 40 ans, ni s'il va au hajj. Peut-être qu'il va sortir pour acheter les courses que sa mère elle lui a dit d'acheter, ou sa femme. Et il ne va pas revenir pour manger la bouffe qu'elle aura préparée avec ses courses-là. Il va mourir d'un accident de voiture ou d'une rupture d'anévrisme ou n'importe quoi. Allah Azza wa Jal, quand il décide du délai, et le délai il est déjà écrit, tu ne peux pas le repousser. Et aussi il a dit jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Occident, de là où elle se couche. C'est-à-dire que ça fait partie des grands signes de l'heure du jugement, c'est quand le soleil il va se lever à l'endroit opposé où il se lève d'habitude. Là où il se couche d'habitude, il va se lever. Et ça, il ne faut pas dire, ouais, c'est impossible, peut-être le hadith il est faux. Ça, ce hadith est dans le Bukhari et le Muslim. C'est-à-dire, nous, on doit croire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il nous dit des choses qui, apparemment, ne sont pas possibles. Et on croit qu'Allah Azza wa Jal, il est capable de tout ce qu'il veut faire, il le fait. Et, comme je racontais en arabe une histoire, c'est que dans Sahih al-Bukhari, il y a un hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'heure ne se lèvera pas jusqu'à ce qu'il sorte de la terre du Hijaz, c'est-à-dire la région de Mecca, Médine, Jedda et Taïf, un feu qui éclairera le cou des chameaux à Bousra. Et Bousra, c'est une ville vers la Syrie. Donc il y a à peu près 1000 km entre Médine et cette ville. Et en l'an 654 de l'Hégire, comme ils l'ont rapporté les historiens arabes, et notamment Ibn Kathir, rahimahullah, dans son livre d'histoire, en 654 de l'Hégire, un feu il est sorti de Médine et il tournait, c'est-à-dire il changeait d'endroit, mais c'était toujours à Médine et autour de Médine, et il faisait, c'est-à-dire pour mesurer par rapport aux mesures de l'époque, il disait il était équivalent à 3 minarets. C'est-à-dire si tu mets 3 minarets les uns au-dessus des autres, c'est-à-dire à peu près on va dire 50 mètres de hauteur, ce feu il faisait cette hauteur-là et il est resté pendant un mois. C'est pas un feu qui est resté 12 heures et il s'est éteint, il est resté un mois à Médine. Et les historiens, ils disent à Taïma, une ville qui est à peu près à 150 km de Médine, les gens, ils écrivaient la nuit à la lumière de ce feu. C'est-à-dire, ils n'avaient plus besoin de leur lampe. Pendant cette période-là, pendant un mois, ils n'avaient plus besoin de lampe. Il y a un autre historien, il dit, de Médine, il dit, on avait l'impression que chacun d'entre nous, on avait une lampe dans la maison, de la lumière de ce feu. Et aussi, c'est-à-dire le hadith, qu'est-ce qu'il dit, c'est que ce feu, il éclairera les coups des chameaux à Bousra. Et les historiens, donc ceux qui étaient au Cham, ils disent qu'effectivement, ils voyaient ce feu depuis la Syrie. Et ils voyaient la lumière de ce feu. Donc si on t'avait raconté ça avant ça, tu aurais dit, ouais, mais le hadith, c'est bizarre. Et pourtant, c'est arrivé comme le prophète, il l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Un feu qui reste, qui sort sans cause et qui reste pendant un mois. Et qui fait 50 mètres de hauteur. Et c'est arrivé comme le prophète, il l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, plus de 600 ans après qu'il l'ait dit. Donc s'il nous dit que le soleil va se lever un jour de là où il se couche d'habitude, on dit avec certitude qu'il va se lever un jour d'où il se lève, d'où il se couche d'habitude. Mais le repentir, là, il ne sera plus accepté. C'est-à-dire, non seulement c'est un signe de la fin des temps, et c'est un moment qui indique aussi que le repentir, il ne sera plus accepté. Parce que comme il a été rapporté dans le hadith, que tous les gens y croiront à ce moment-là, et ils se convertiront. Les juifs, les chrétiens, tous ceux qui seront présents à ce moment-là, ils rentreront dans l'islam. Mais comme Allah il a dit, la tanfa'u imanuha, la tanfa'u nafsan imanuha, lam takun amanat min qabl. S'ils n'étaient pas croyants avant, ça ne leur servira à rien. C'est-à-dire que ça ne sera pas accepté d'eux. Le repentir qui sera fait après ce signe-là. Et il y a un autre hadith, le hadith d'après, il dit Allah Azza wa Jal, il accepte le repentir de la personne tant qu'il n'est pas aux affres de la mort. C'est-à-dire tant que son âme n'est pas en train de sortir. Allah il accepte le repentir, ça fait partie de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Même s'il se repent de la mécréance à l'islam, c'est accepté à tout moment. Tant que l'âme elle n'est pas arrivée à la gorge et qu'elle n'est pas en train de sortir. S'il est à ce moment-là, c'est-à-dire il témoigne de sa mort, là il a beau dire je me repens, ou la ilaha illallah, ou tout ce qu'il veut, ce ne sera pas accepté de lui. Donc ça c'est une condition, il y a un temps limité pour tout le monde. C'est quand le soleil il se lèvera de l'Occident. Et il y a un temps qui est pour chaque personne, c'est l'arrivée de la mort, avec certitude. Mais il ne faut pas confondre entre ça et la personne, par exemple, qui passe une semaine ou un mois avant de mourir à l'hôpital et qui souffre. Mais elle ne souffre pas de sa mort, mais de la maladie, par exemple. Et elle sait pertinemment que la maladie, elle va, à 90%, la mener à sa mort. Comme une personne, par exemple, qui a 70 ans, qui a un cancer, et ça fait plusieurs fois qu'il se fait hospitaliser, et là, ça fait un mois qu'il est à l'hôpital. Et les médecins, ils disent, c'est fichu. Est-ce qu'il peut se repentir quand même? Naam, il peut se repentir. C'est-à-dire, et ça c'est peut-être une miséricorde d'Allah pour cette personne, qu'Allah lui a mis un grand signe comme quoi il va mourir. Alors que d'autres, ils meurent subitement, ils n'ont pas eu le temps de réfléchir. Lui, Allah, il lui donne un sursis. C'est comme si Allah lui disait, regarde, tu vas bientôt mourir, je t'ai laissé un peu de temps. Réfléchis et repens-toi. Mais quand l'âme, elle va sortir, et que là, il témoigne de sa mort, là, c'est fini. Là, il ne peut plus se repentir. Donc il y a une différence entre les deux situations. C'est là, c'est l'heure. Continue. Hein? الحديث دقيق لدخول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.